matin, il me dit, « Mimi, regarde toute la salle, prends une bonne respiration. » Alors, peut-être j'aimerais commencer par une courte prière. Seigneur, merci parce que je sais que tu nous accompagnes. Je te prie que tu déposes ta main puissante sur chacun de nous, que tu nous combles ce matin de bénédiction. Ce que je vais partager avec mes frères et mes sœurs, c'est que c'est pour te glorifier. Amen. J'aimerais vous partager pourquoi j'aime parler de Jésus avec autant de passion et de conviction. En le rencontrant, j'ai été séduite par Jésus. Oui, Jésus m'a séduite. C'est pourquoi je vais le faire connaître et le donner aux gens. Quelle vie passionnante de rencontrer Jésus à travers les démunis. J'ai une certitude intérieure très forte que Dieu a besoin de moi, qu'il me fait confiance et qu'il compte sur moi pour aller leur révéler combien ils sont importants à ses yeux. Je suis attirée par les exclus, les démunis, les mal-aimés, les marginaux, les différents, les rejetés. Dans notre société, on les appelle les déchets de la société. Mais pour moi, c'est la chair du Christ. C'est mon expérience personnelle derrière tout ça. Probablement que je n'aurais pas accompli ma vie si Dieu ne m'aurait pas convaincue que j'étais importante à ses yeux. Ma conviction, c'est que ma mission la plus importante que j'ai à accomplir, ça ne vient pas de ce que j'ai reçu, mais de ce qui m'a manqué. Là où je suis à mon meilleur, c'est ce qui m'a fait pleurer, souffrir, manquer. La vie m'a rendu fragile, très fragile et vulnérable. C'est comme s'il y avait un espace à l'intérieur de moi pour qu'il y ait un pouvoir, une puissance qui se dégage de moi à partir même de mes fragilités. C'est pourquoi je suis à l'aise avec le petit, le malheureux. Il ne sait pas qui il est, mais il faut lui révéler. Je dis merci Seigneur pour toutes ces souffrances qui m'ont amenée à être une femme soumise à Jésus. C'est une grâce pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir servir le Seigneur. Quel privilège! Il y a plusieurs années, notre église était située sur la rue Hyman et notre culte était à 2 heures. Un dimanche, j'ai passé une personne qui est venue apporter le message sur Jean 4, 34, 35. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous le dis, les champs sont blancs, prêts pour la moisson. Et il a fait un appel, il a dit, ceux qui sont prêts à payer le prix, d'avancer en avant. Et je me suis avancée. Je me souviens, je dis au Seigneur, je suis prête à payer le prix. Je savais que le Seigneur m'appelait à le servir. J'étais seule en avant. Je me sentais bien, bien, bien petite. Je paniquais à l'intérieur de moi. Je me disais, je ne suis pas capable, je n'ai pas la force, je n'ai pas les capacités. C'est impossible pour moi. Mais j'ai entendu la voix douce de Jésus. Cela m'importe peu, puisque c'est moi qui œuvre en toi. Je ne cherchais pas la personne la mieux qualifiée, mais celle qui est prête à se soumettre à moi. Dans Jean 15, 5, dans le Nouveau Testament, ça dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 26, 12, « Car tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. » Alors j'ai dit, Seigneur, je mets mon travail pour ton royaume par ta force. J'aimerais que tous connaissent celui qui m'a racheté et qui a bouleversé ma vie. Je peux vous affirmer que Jésus est vraiment, vraiment, vraiment vivant. Amen, soyez bénis.
Oh là là, il y a beaucoup... Je pense qu'on va prier. On va prier maintenant. Mais gardez vos commentaires et vos questions pour après. Moi, j'aimerais prier pour Mimi. Ou peut-être que quelqu'un qui a levé la main aimerait prier pour Mimi. Oui?
Seigneur Dieu, c'est un privilège que j'ai de prier pour Mimi. Seigneur, merci pour cette sœur qui, en effet, est un exemple pour nous tous, Seigneur. Père, elle touche tellement de personnes, elle touche tellement de gens dans ce quartier. Elle est un baume sur les plaies, Seigneur. Elle est ta parole sur deux jambes. Elle l'amène partout, Seigneur, dans ce quartier. Et on te loue, on veut te rendre grâce, Seigneur, pour cette femme qui a vraiment, vraiment s'est soumise à ta volonté. Et qu'elle soit pour nous tous une inspiration et qu'elle ait un impact sur la vie de plusieurs autres personnes ici même. On te remercie pour cette sœur. On veut te rendre grâce et lui donner plusieurs autres années, Père Céleste, et plusieurs autres déménagements à faire. Alléluia! Gloire à Dieu! Merci.
Dernier, juste, c'est que nous, on est le peuple de Dieu. Levons-nous, Dieu est à nos côtés.
Amen. 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 Et c'est aussi une très bonne introduction pour notre considération de la parole de Dieu aujourd'hui. Et je vais essayer de revenir au texte. Si je vise bien avec ma télécommande, on va revenir. Voilà. Seigneur Dieu, prépare nos cœurs pour entendre ta voix qui nous parle à travers mes simples paroles. Comme nous avons entendu ta voix à travers les paroles de Mimi tantôt. Et on te prie au nom de Christ. Amen. OK. Est-ce que David est ici? J'entends, il y a une fausse alarme. J'imagine qu'elle est fausse. Il faudrait que quelqu'un peut-être aille voir David pour lui demander de l'éteindre. Merci, Jean-Claude. Oui, que c'est merveilleux d'entendre par Mimi que la mission de communiquer la bonne nouvelle de Jésus se poursuit dans notre communauté, puis que des vies continuent à être transformées. Et on peut se réjouir que dans le monde entier, l'Évangile continue à être partagé par des vies et par des paroles. Plus tôt cet automne, je vous avais parlé du groupe biblique universitaire et collégial à Rouyn-Noranda. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Ça, c'est en Abitibi, c'est assez loin d'ici. Et depuis 5 ans maintenant, il y a des étudiants là-bas qui, avec leurs encadreurs bénévoles, continuent d'élever le nom de Jésus. Alors, ils organisent une fête pour leur 5e année d'existence. Et puis, voici qu'une fille qui a participé à leur groupe avant de connaître Jésus, leur a écrit ceci sur Facebook cette semaine. Elle dit ceci: « Salut! Ça fait un moment que j'ai quitté Rouyn-Noranda, mais je tiens à écrire un mot au GBUC. Je veux vous dire que les graines que vous avez patiemment semées en moi continuent de germer tranquillement. Ce que vous faites est utile, même si vous n'en voyez pas les résultats immédiatement. Ceux qui me connaissent savent que je viens de loin. Pourtant, aujourd'hui, je suis co-responsable du GBUC de Nîmes. Ça, c'est une ville en France. Vous m'avez préparé à vivre cette vie où le Seigneur occupe une place centrale. Le Seigneur change mon cœur jour après jour. Beaucoup de choses que j'ai apprises avec vous me sont utiles aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Amen. Oui, alors, ce qui est encourageant, c'est que c'est des paroles de quelqu'un qui, au départ, ne connaissait pas Jésus, qui est venu en contact avec un groupe qui connaissait leur mission de faire connaître Jésus. Et sa vie a été touchée. Puis elle se déplace à son tour et devient un témoin ailleurs. C'est comme une maladie qui se répand dans le monde. Mais une maladie de l'amour de Dieu. Amen! Est-ce que c'est pas super, ça? J'espère que cela vous encourage. Peu importe la forme de votre témoignage pour Dieu, peu importe la forme de votre diaconat. Okay? Diaconat veut dire service, et puis c'est un mot qui va être important ce matin. Alors, on parle de groupe d'étudiants universitaires, les GBU, et ça, c'est un groupe qui a bien démarré, mais vous savez, tout groupe chrétien, il y a un risque qu'elle perde de vue sa vraie mission. Dans les groupes chrétiens étudiants, pour avoir travaillé dans ce domaine, dans ce ministère, le risque, c'est que d'autres besoins deviennent plus importants que la mission de faire connaître Jésus. Et pour les étudiants, c'est souvent le besoin de se faire des amis. Alors, le groupe chrétien devient un lieu social, c'est important, mais si ça éclipse le but premier, qui est de faire connaître Jésus, c'est une erreur, c'est pas bon. Et l'histoire de l'Église est tristement remplie d'exemples de communautés chrétiennes qui ont perdu de vue leur mission initiale. Alors, une autre partie de la mission devient le focus principal. Même dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, quand le Jésus exalté parle avec l'Église d'Éphèse dans une lettre que Jésus lui-même communique à cette Église d'Éphèse dans Apocalypse 2, il leur dit, « Oui, tu as de la persévérance, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes œuvres premières. » Ce matin, je pense que le Seigneur nous invite à non seulement à nous souvenir de la mission de faire connaître Jésus, mais aussi à regarder nos vies, éventuellement à nous repentir, puis de considérer avec sérieux cette mission qui est de faire connaître Jésus et qui imprègne tout le livre des Actes qu'on est en train de lire et d'étudier cet automne. On veut garder le cap. Hein? Ça, c'est une expression qu'on utilisait en voile. J'ai pu faire un peu de voile quand j'étais adolescent. Et puis, oui, garder le cap, bien, c'est l'idée, c'est que le cap, c'est comme le point vers lequel tu t'en vas. Alors, dans un voilier, tu as la voile. Toi, tu t'en vas par là. La voile, elle est comme ça. Et le vent, il vient perpendiculaire. Et tu as comme une quille. Tu as une quille qui est assez profonde, qui va profond dans l'eau et qui empêche le bateau d'aller dans la direction du vent. Ça, c'est pour ceux qui connaissent la physique. Peut-être que vous pourrez nous expliquer. Mais il y a quand même un risque que le vent fasse dévier la direction du bateau. Alors, on dit, il faut garder le cap. Donc, il faut travailler, il y a des techniques pour rester dans la direction qui n'est pas la même que le vent. Il faut garder le cap dans la mission aussi, dans l'Église aussi. Et puis, le texte qu'on a lu tantôt est un bon exemple de chrétiens tellement possédés, tellement zoin-zoin pour l'annonce de Jésus, zoin-zoin, ça veut dire comme fou, et qu'ils réussissent très intelligemment à garder le cap, malgré l'opposition qui vient de l'extérieur, on voit ça un peu en écho dans les premiers versets, et malgré les problèmes qui arrivent à l'intérieur de la communauté. C'est ce qu'on voit plus tard. Au début, comme à la fin du texte, on voit que, et c'est le narrateur qui parle, il dit, le nombre de disciples continue à augmenter, la présence du Saint-Esprit continue à bénir la communauté, et on dirait qu'il n'y a rien qui les arrête. C'est très encourageant, Et au verset 42, qui est juste là en haut de l'écran, c'est intéressant comment le narrateur parle des apôtres qui viennent d'être, viennent de passer devant le tribunal. Et c'est marqué non pas qu'ils continuent d'enseigner et de prêcher, mais qu'ils ne cessent pas. Hein? Ils ne cessaient pas. Hein? Et ça se réfère au fait qu'il y avait des raisons d'arrêter. C'était difficile. Ils souffraient, il y avait de l'opposition. Mais ils ne cessaient pas. C'est un peu le leitmotiv de tout le texte. Nous aussi, on peut être tenté d'arrêter et on va suivre leur exemple ce matin. Il y a quatre mesures de sagesse divine que les apôtres et toute la communauté mettent en œuvre dans le problème qui est évoqué ici, qu'on a lu tantôt. Quatre mesures de sagesse divine. Alors, autant ils sont zoin-zoin pour Jésus, autant leur solution au problème, il y a de la sagesse divine dedans. Et je vois quatre mesures que je voudrais mentionner ce matin, puis j'espère que vous pouvez vous en souvenir. Premièrement, voir le problème qui se présente. Premièrement, voir le problème. Deuxièmement, trouver une solution. Troisièmement, décider quoi faire en communauté. Puis quatrièmement, se souvenir des tâches essentielles. Alors, premièrement, voir le problème. Deuxièmement, trouver une solution. Troisièmement, décider en communauté. Quatrièmement, se souvenir des tâches essentielles. Alors, premièrement, voir le problème. Alors ici, comme j'ai dit, ce n'est pas une opposition externe, mais c'est un problème interne causé par la croissance numérique du groupe. Un bon problème. Quand l'Esprit-Saint agit dans une église en centre urbain, il faut s'attendre à ce qu'il réunisse dans la famille des gens très diversifiés. Des gens qui, avant de connaître Jésus, ne s'entendraient pas facilement nécessairement, ou pas du tout, à cause de leur différence de langue, différence d'origine, différence culturelle, linguistique, financier, mentalité, sexe, groupe d'âge, etc. Mais justement, c'est une très belle chose. Ça fait partie de la sagesse de Dieu de réunir des gens différents et c'est pour sa gloire parce que les gens du dehors vont se poser la question est-ce qu'il n'y a pas une force hors du commun qui cause cela? On voit que les choses avancent dans le livre des Actes et la diversité devient de plus en plus grande. Nous voyons des Juifs palestiniens, mais il y en a qui sont pauvres et il y en a qui sont riches. Ensuite, des Juifs qui viennent d'autres pays et qui, eux, ne parlent pas l'araméen comme les apôtres de Jésus et les autres disciples palestiniens, mais qui parlent le grec. Ce sont eux qu'on appelle les hellénistes ici. Les Hébreux, donc, c'est les Juifs locaux qui ont cru en Jésus. Et puis, il y a au moins un païen dans la gang qui lui, est devenu juif et puis qui ensuite, il a cru en Jésus, puis il s'est joint. Et puis, son nom à lui, c'est... Avez-vous remarqué son nom? Nicolas. Attendez. Ben oui, il me semble. Ah, Nicolas, tu vois, t'es dans la Bible. Alors, attendez. J'aimerais ça. Il faut que je pointe ça comme il faut, là. Oui, Nicolas, un nom juif d'Antioche, converti. Oui. Alors, il se présente un problème. Un problème, nous avons vu il y a quelques semaines qu'il y a un problème, c'est que beaucoup de gens qui se sont joints à la foi, ils étaient sans ressources. Et il y a eu un mouvement de générosité par le Saint-Esprit. Les gens, ils ont vendu leur terre, leur maison, ils ont mis les ressources en commun. Les apôtres ont commencé à distribuer. Et je pense que c'était les apôtres qui étaient en charge de distribuer la nourriture aussi. Ici, on voit qu'il y a un vrai problème qui se présente, c'est qu'un groupe ethnique est négligé dans la distribution. Les veuves hellénistes, donc celles qui parlent grec, ont une part inférieure, injuste. Et c'est les apôtres qui sont responsables, OK? D'après moi, ils n'ont pas fait exprès. Ils étaient débordés par la grosseur de la tâche et ils finissaient par montrer un peu leur incapacité dans ce rôle-là. Ouais, donc, les hellénistes, eux, ont vu que leurs veuves ne recevaient pas assez de nourriture. Ils ont peut-être mal fait de murmurer. Le verbe qui est mentionné dans le texte, c'est qu'ils ont murmuré. Un vrai problème, mais peut-être une mauvaise façon de l'exprimer, c'est-à-dire un peu en mémère, oui, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, hey, les apôtres, as-tu vu? Ils ont été injustes. Évidemment, ce qui est sous-entendu là, c'est que c'est mieux d'aller, de prier, puis d'aller devant les apôtres et leur dire, j'ai vu un problème, je ne veux pas vous blâmer, mais il y a vraiment un problème et j'aimerais vous l'exposer, plutôt que de murmurer. Mais ce que je pense que les apôtres, ou ce que j'imagine qu'ils ont fait, ils ont entendu les murmures, ils ont dit, bon, même si ça nous blesse, mais il y a un problème réel, on va prier, on va demander à l'Esprit-Saint de nous donner une solution. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Dieu, dans sa bonté, leur a communiqué une solution. Amen, hein? Amen. À l'Oasis, nous avons aussi un comité de responsables qui se réunit à chaque mois pour prier, pour identifier des problèmes internes et trouver, avec l'aide de Dieu, des solutions pratiques. Et notre but, c'est d'aider l'œuvre, de continuer à avancer le mieux possible. Et c'est vrai que des fois, les solutions qu'on teste ne fonctionnent pas bien tout de suite. C'est vrai que des fois aussi, les responsables ne voient pas rapidement le problème qui se présente, contrairement aux apôtres ici, qui semblent en tout cas observer un problème rapidement et le régler efficacement. Mais ce comité est toujours reconnaissant quand des membres viennent à nous avec des problèmes à résoudre ou des opportunités à saisir. Donc, est-ce que je peux vous demander de prier pour ce comité? Donc, il s'agit du pasteur avec les anciens et les diacres. Et donc, Dieu, nous avons vraiment besoin de l'aide de Dieu et votre soutien pour faire ce travail pour vous et avec vous. Alors, je mentionne les noms de tous ceux qui sont dans le comité des responsables. Donc, Gunnar, David, vous pouvez vous lever si vous êtes dans la salle. Gunnar, David, Jean Lambert, Suzanne, Maritza, Alexandre, Karine, et Cheryl. Alors, priez pour vos délégués, vos responsables, et je suis avec eux aussi. Priez pour moi aussi. Et vous voyez, vous pouvez vous asseoir, merci. C'est important, c'est important. Tout le monde est faillible, même les apôtres. Mais l'Esprit-Saint était avec eux. Donc, voir le problème. Deuxièmement, trouver une solution. C'était une très belle solution que cette idée des sept préposés qui sont nommés ici. L'idée derrière la solution, la sagesse derrière la solution, c'est qu'elle permettait la continuation efficace de ce qui était le but à l'origine, l'évangélisation et l'enseignement, comme il est mentionné au début du passage. Hein, la sagesse, c'est de garder le cap sur la mission. Comme j'ai dit, au début, c'était les apôtres qui géraient la distribution monétaire et probablement de la nourriture. Avec le temps, ils sont devenus incompétents dans ce domaine. Donc, ils finissent par déléguer à des gens compétents dans ce domaine et des gens disponibles. Vous savez, c'est très intelligent pour la santé d'une communauté chrétienne d'augmenter le nombre de personnes qui ont la responsabilité d'agir et de décider. Donc, préparez-vous, si vous faites partie de l'Oasis, préparez-vous pour qu'à un moment donné, on vous approche pour dire « Pourrais-tu aider dans tel domaine? » C'est important de se préparer pour jouer un rôle. Un peu comme les sept qui déjà étaient des chrétiens actifs, on est venu les chercher pour dire « Pourrais-tu aider dans ce domaine? » Alors, prépare-toi à dire oui. Prépare-toi à développer ton caractère chrétien. On voit que les apôtres mettent des critères, puis sont quand même importants, puis ils s'appliquent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent qu'il faut qu'ils soient... attendez que je trouve le... Oui. Donc, des hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Ils font qu'ils soient au-delà de la critique, le plus possible en tout cas, remplis du Saint-Esprit, remplis de sagesse. Il faut que ce soit des chrétiens mûrs qui vont être fiables dans leur tâche. Parce que dans le diaconat, que tu aies le diaconat, c'est-à-dire le service, soit de distribuer la nourriture, ou de la musique, ou de compter l'argent, ou d'enseigner, ou de prêcher, ou d'évangéliser. Les autres dépendent de toi. C'est-à-dire que si moi je fais bien mon diaconat, ça va t'aider toi à bien faire mon diaconat. Imaginez que Procore ici, ou Nicolas, ou toute la gang décide « Hey, on s'en va en vacances. On s'en va à Chypre, sur la plage. On n'avertit pas les apôtres. Bien, les apôtres qui sont responsables de s'assurer que tout fonctionne bien, j'imagine, ils vont être obligés d'aller servir aux tables à nouveau. Donc, il faut que les diacres soient fiables pour que les apôtres puissent poursuivre leur diaconat à eux. On se complète les uns les autres, on se soutient les uns les autres dans nos tâches. Voilà la belle solution qui a été trouvée et qui fait que les apôtres ont pu se concentrer, revenir à leur tâche, qui était de prêcher et d'enseigner. Troisième mesure de sagesse, la manière que la décision a été prise, je pense, mérite qu'on observe. Ils ont décidé en communauté. Alors, en théologie, on apprend, lorsqu'on considère Dieu, que la Trinité n'est pas une dictature de Dieu le Père sur Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, je simplifie les choses un peu, mais en fait, une chose est claire, c'est qu'il y a une unité parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la personne, dans l'être de Dieu, dans les trois personnes. Les décisions prises par Dieu sont unies. Elles sont unies dans le cadre des trois personnes, dans l'être de Dieu. De la même manière, Dieu ne structure pas le peuple de Dieu en dictature, Mais les décisions importantes, eh bien, tout le monde participe. Parce que tout le monde est à l'écoute de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Donc, le point de vue de tout le monde est important. Comme l'explique le théologien Alain Nisus, on voit ici dans Acte 6, comme ailleurs dans le Nouveau Testament, une articulation entre l'autorité du groupe restreint des apôtres, d'une part, et puis la communauté au complet de l'autre. Ce n'est pas juste les apôtres qui décident ici, ce n'est pas juste la communauté ou le vote universel, mais c'est en fait les deux ensemble. Les apôtres proposent, inspirés par l'Esprit, une solution. On va choisir des préposés. Ensuite, c'est la communauté qui discerne qui vont être les sept. Puis, ils reviennent aux apôtres et c'est les apôtres qui viennent valider la sélection par l'imposition des mains et la prière. Intéressant quand même. Et c'est comme ça que, toute proportion gardée, nous voulons fonctionner aussi à l'Oasis. En suivant ce principe général de groupe restreint, communauté, tout ensemble. Et d'une certaine manière, le comité de mise en candidature que j'ai mentionné tantôt, c'est un peu ça. C'est les anciens, d'une part, qui sont déjà établis, mais avec des représentants de la communauté qui vont prier ensemble, qui vont discerner. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la communauté qui est peut-être appelé à être ancien? Et présenter cela à l'Église pour le vote. Donc, voilà, prier pour ce processus-là qui va se poursuivre la semaine prochaine. Quatrième mesure de sagesse maintenant, on se souvient des tâches essentielles. Voilà la beauté du travail des apôtres. On est frappé qu'ils perçoivent très clairement quelles sont les responsabilités non négociables que le Seigneur leur a confiées et donc qu'il a confiées à l'Église. Alors, moi, je les mentionne. C'est celles qui sont mentionnées ici dans cette histoire. Alors, premièrement, l'évangélisation, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de Jésus. On voit ça au début du passage, au verset 42. Ensuite, l'enseignement, hein, c'est différent. L'évangélisation et l'enseignement. L'enseignement, c'est donc l'approfondissement des connaissances de base. On remarque que ça se fait publiquement dans le temple, en privé dans les maisons. Troisième tâche essentielle, s'assurer que tout le monde a de quoi à manger, donc veiller au bien matériel. Et puis quatrièmement, il ne faut pas oublier qu'est mentionné la prière. Hein? Quand les apôtres reviennent à ce qu'ils vont faire, ils disent qu'on va se consacrer à la prière et au diaconat de la parole, hein, au verset 4. Il trouve une solution qui fait que les quatre puissent continuer, mais que eux qui ont le mandat spécial d'annoncer, de prêcher, d'enseigner, de prier, pourront continuer à le faire, tout en veillant à ce que les autres choses se fassent. Parlons de cette tâche qui est un peu plus discrète, la prière. Je pense que ça mérite qu'on passe un petit moment là-dessus. Comment vis-tu, toi, la prière? Il nous faut prier ensemble comme Église, tout le monde ensemble. Il nous faut prier dans des groupes plus restreints. Comité des responsables, on va se voir le 7 décembre. Il faudra qu'on prie, hein? Entre autres, il faudra qu'on prie. Il y a des réunions de prière aussi. Et puis, il faut aussi, où nous sommes invités, individuellement et dans nos maisons et en famille, à prendre du temps juste pour être dans la présence de Dieu, le contempler et l'adorer. Et tu, Liette, tu voudrais dire quelque chose? Merci. Partenaire de prière est une autre approche, mais très utile pour beaucoup de gens. Pour moi, la prière, c'est mon contact direct avec l'Éternel. C'est ce moment où, si je persévère, je peux sentir battre le cœur de Dieu. Et il peut parler à mon cœur et même me souffler des nouvelles pensées qui, parfois, sont vraiment les siennes et me prennent par surprise. Quel privilège que nous avons de pouvoir être dans sa présence, écouter, parler au Dieu de l'univers. Il faut en profiter. Je mentionne que, une autre parenthèse, je vous ai invité à m'envoyer des courriels par rapport à vos réflexions sur le livre des Actes. Il y a notre frère Pierre Bolla qui m'a envoyé une réflexion sur Acte 10, donc l'histoire de Pierre et Corneille qu'on a vu la semaine passée. Puis, il a été question beaucoup de prière dans ce texte. Et Pierre mentionne dans son courriel un principe auquel il réfléchit de faire une dîme de son temps pour la prière. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est dîme, c'est carrément un calcul. J'ai 24 heures dans ma journée. Pourquoi est-ce que je ne donnerais pas 2,4 heures de prière à Dieu par jour? Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est une idée que notre frère met de l'avant. Et peut-être un jour, il pourra nous en parler plus. Mais en tout cas, ça, c'est quelqu'un qui se dit, la prière, c'est tout un privilège, il faut que j'en profite. Et c'est difficile dans notre civilisation, c'est difficile. Hein? Moi, ça peut m'arriver de me sentir coupable de prier, parce que je me dis, je suis là en train de rien faire pendant que les autres travaillent. Ce n'est pas la logique de Dieu. En tout cas, c'est tout un privilège que nous pouvons prier. Et Dieu nous invite à lui apporter tout souci, tout problème, comme les apôtres ont fait ici. Ça, c'est l'autre beauté de la prière, c'est qu'on rentre dans la présence de celui qui a la solution à ton souci. Voici notre assurance dans la prière. Devant la bonté de Dieu qui désire notre plus grand bien, la sagesse de Dieu qui a déjà prévu ce plus grand bien, et la puissance de Dieu qui va accomplir ce plus grand bien, qu'est-ce qui nous manque? Je vais répéter ça. C'est une belle phrase, hein, mais ce n'est pas de moi, c'est de A.W. Tozer. Mais bon, je vous la relis. Écoutez bien. Devant la bonté de Dieu qui désire notre plus grand bien, la sagesse de Dieu qui a déjà prévu ce plus grand bien et la puissance de Dieu qui va accomplir ce plus grand bien, qu'est-ce qui nous manque? Amen. C'est l'heure de conclure. Donc, voilà ce bel épisode de l'Église des apôtres qui nous montre comment ils ont réglé un problème potentiellement destructeur. Ils l'ont réglé en prenant des mesures de sagesse qui venaient de Dieu. Voir le problème en face, trouver une solution qui vient de Dieu. Décider en communauté avec le Saint-Esprit. Se souvenir des tâches essentielles que Jésus nous a données. Évangéliser enseigner, voir aux besoins matériels, prier. Que Dieu nous donne son esprit, un esprit d'action, de prière et de sagesse, afin que nous soyons pleins de sérénité cette semaine et confiants qu'aucune épreuve, aucun obstacle ne va empêcher Dieu de nous utiliser pour son royaume. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Amen.